Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Le parti Leni est suspendu du regroupement de la DMP dynamique pour la majorité du peuple. Et ceci avec effet immédiat. La raison principale est le non-respect de la consigne de la DMP lors des sénatoriales par le parti Leni. Dans un communiqué, la conférence des présidents de la DMP dit avoir déploré les agissements du premier responsable du parti Leni qui ont failli créer une confusion dans la tête alors de plusieurs Togolaises et Togolais qui croient en la nature et au sens alors du combat de libération que mène la DMP aux côtés du peuple et également qui consiste à refuser l'imposition d'un régime monarchique au Togo. Du berger à la bergère, la réaction du parti Leni ne s'est pas fait attendre. Le parti Leni dit être surpris d'entendre sur les ondes qu'il serait suspendu de toute activité de la DMP. Par ailleurs, note le parti, aucune notification officielle ne nous est à ce jour parvenue. Par conséquent, le parti Leni s'abstient pour l'instant de tout commentaire relatif à la probable décision. Nous sommes intéressés par le sujet. Nous allons en parler dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi 26 février 2025. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sousa sur la mise en onde. Jérôme Dakoutsa est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Vous êtes nombreux à nous suivre également à travers nos différentes plateformes digitales. Merci à vous, vous qui nous suivez à travers ces différentes plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, et Abassi Saka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent sur moi.
J'espère que vous allez bien, Abassi.
On rend grâce.
C'est toujours commandant quand même.
Oui, toujours commandant, mais commandant top niveau.
Commandant top niveau, ça veut dire encore.
Ça veut dire beaucoup de choses.
Ça veut dire qu'on tend peut-être alors vers un autre grade là.
Ouais, même les gens peuvent prendre des grades général, machin là. Sur moi là, je suis au top.
Mais ce qui est sûr, avec ton commandant, tu es au top.
C'est un commandant spécial.
Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Estelle Koudzonou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour également aux techniciens, bonjour aux auditeurs, auditrices de la 93.5.
Et j'espère que vous allez bien.
Bon pied, bon oeil, merci.
Dieu merci. Voilà, et Justin Anani, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous allez bien?
Oui, je vais bien. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que je vais porter en terre le samedi prochain ma tante. Quand vous avez eu le temps d'enterrer votre papa et ses frères... Ses sœurs, lorsqu'ils ne seront plus dans ce monde, vous avez l'obligation également de les enterrer. Pareil également du côté maternel. Donc on s'affaire et on se bouscule, nous sommes dans les préparatifs. Mmh. Donc le samedi prochain, je vais enterrer ma tante. Et déjà, je remercie tous ceux-là qui nous soutiennent, moralement, financièrement également, et qui sont prêts également à faire le déplacement sur à Clacou et Tchavi le samedi prochain.
Donc, nos condoléances. Merci. Et c'est tout le club, l'équipe de l'émission Club de la Presse qui vous envoie ces condoléances.
Merci.
Pour ce triste moment que vous passez. Merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. L'autre qui a répondu à notre invitation et qui est devenu fidèle même d'ailleurs de cette émission de chaque mercredi, c'est Gadiel Tonyadi. Gadiel, bonjour.
Pascal, bonjour et bonjour à tous qui nous écoutent ce matin.
J'espère que vous allez bien.
Ça va.
Dieu merci, ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Et
c'est un plaisir.
Justement. Alors, Gadiel, votre journal Santé, Éducation est dans les kiosques ce matin. Et ce matin, vous vous intéressez à un repas que nous prenons pratiquement chaque jour. Et vous parlez alors de colico. Colico, et vous écrivez colico le soir, effet néfaste. C'est que ça veut dire que quand nous prenons déjà du colico le soir, il y a justement des conséquences néfastes pour nous et surtout pour notre santé.
Absolument. Si surtout on devient accro de cela, si ça devient le dîner habituel. Vous savez, Pascal, actuellement au Togo, les données au niveau des maladies non transmissibles, on les connaît. On peut citer quelques données quand même. Pratiquement 30% de Togolais sont en surpoids, plus de 11% sont en obésité, 30% de Togolais sont hypertendus et 5% sont des diabétiques. Donc la photo elle est claire, il y a des facteurs qui concourent à cela et l'un des facteurs c'est ce que nous consommons, notre choix alimentaire et notamment les frites. Vous savez, colico que nous connaissons bien. Et quand nous parlons de colico, nous parlons de tout ce qu'on frit comme tubercule. Que ce soit la patate douce, que ce soit les pommes de terre, tout ce qu'on frit le soir.
Il faut rappeler quand même que colico, c'est à base du manioc, c'est ça?
Colico, c'est à base des ignames.
Des ignames plutôt.
Voilà, à base des ignames. Et quand ça devient récurrent, c'est un problème, d'autant plus que aujourd'hui il y a un problème au niveau des huiles qui sont sur le marché et l'utilisation des huiles qui sont faites, en tout cas l'utilisation qui est faite à la maison, je veux dire, et puis les frites le soir, Pascal. D'après des études, les frites c'est très lourd, ça fait travailler trop l'organisme le soir, ce qui fait que on a un faux sommeil réparateur. On pense bien dormir, on ne dort pas bien. Et puis, il y a des effets après sur l'organisme. Alors, avec les résultats des maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, nous allons nous informer sur nos choix alimentaires, sur nos comportements, sur notre hygiène de vie. Parce que l'OMS dit l'information, la sensibilisation, l'éducation réduisent la vulnérabilité de la population à plus de 40%. Donc, quand on a l'information, on peut changer. On suppose que les gens ne le savent pas. Parce que, vous savez, Pascal, consommer colico le soir, c'est doux. C'est bon. Très agréable. On aime ça, tout le monde aime. Et puis, on arrose cela avec quelque chose de très glacé, une boisson glacée. On est au paradis. Mais attention, la question qu'on doit nous poser, est-ce que l'organisme aime cela? Et s'il a besoin de ces frites? Et puis, ce n'est pas seulement l'igname qu'on frit. On frit tout ce qui entoure l'igname, la viande, le poisson, les saucisses et tout ce qui rentre dans ce plat-là. Et ce n'est pas du tout bien pour la santé. Une fois passant, oui. Mais vous savez, dans les maisons, sauf qu'on en faisait tenter, c'est que c'est devenu habituel. Dans certaines maisons, on frit tout le temps. Chaque jour, on doit frire. Chaque jour, on doit consommer les frites avant d'aller au lit. Et c'est très mauvais. En tout cas, c'est un article d'alerte avec plusieurs aspects qui se prononcent sur notre plat colico le soir Quel effet sur l'organisme? On peut lire l'article.
On peut lire l'article et c'est dans votre journal paru ce matin. Journal qu'on peut retrouver alors dans les kiosques ce matin, bien sûr. Et autre article qui nous intéresse bien, vous écrivez Koko Tsoubé contre maladie de la prostate. Qu'est-ce que c'est?
Koko Tsoubé, c'est une plante que nous connaissons bien. Dans notre environnement, plein ici à Lomé et dans plusieurs localités. Vous savez, Pascal, les herbes sont faites par Dieu pour la consommation, pour la santé. Et nous devons comprendre aujourd'hui, nous, Africains, que nous ne pouvons pas nous lever un jour sans avoir pris une plante médicinale, une plante qui contribue à la prévention d'un certain nombre de problèmes d'ennuis de santé. Vous savez, ailleurs, les gens ont la culture de thé. Les gens ont la culture des plantes. Après la consommation, après un plat, on fait un thé, on fait une infusion qu'on consomme. Chez nous, ce n'est pas cela. Or, c'est ça qui concourt à la santé. Et vous voyez, dans ces régions, ils fêtent beaucoup les centenaires. Chez nous, les problèmes de maladie sont récurrents. Pascal. Quand vous lisez un peu les rapports au niveau du ministère de la Santé, on peut le dire sans exagérer que la population togolaise est dans un état très grave. Beaucoup de personnes sont malades, est-ce que vous voyez? Donc, Koko Tsoubé, c'est une herbe qui fait du bien à l'homme, qui fait du bien, d'après les études, à la santé cardiovasculaire, qui fait du bien à plusieurs années de santé, en tout cas pour éviter plusieurs années de santé. Et la prostate, cet organe chez l'homme qui aujourd'hui fait peur, il y a certains hommes qui ne veulent même pas qu'on parle de prostate. Quand on commence à parler de prostate, ils ont la peur, je ne sais pas si on va dire la peur rouge, mais c'est un organe qui est présent chez les hommes et qui, de nos jours, connaît plus de problèmes de santé parce que nous avons changé notre mode de vie et nous agressons cet organe-là. Prostate, organe sexuel chez l'homme qui sécrète un liquide qui s'appelle liquide prostatique, qui contribue à la mobilité, en tout cas à la vie des spermatozoïdes, et puis qui permet l'éjaculation. C'est un organe très important chez l'homme. Mais il peut arriver que cet organe ait des problèmes, notamment quand quelqu'un va uriner, il sent des brûlures, ou bien le jet très faible, ou bien la personne va uriner très souvent. Est-ce que vous voyez, ce genre de problèmes chez les hommes, on doit aller consulter. Mais Koko Tsoubé est une herbe que, en tout cas dans l'article, il y a deux recettes, on peut faire facilement. C'est de la consommation, c'est de l'alimentation. La recette, elle est si faible, elle est si, facile que tout le monde peut le faire. Et pour prévenir un certain nombre de problèmes de santé au niveau de cet organe très important pour nous les hommes.
D'accord, un organe très important pour nous les hommes, et vous l'avez si bien dit, c'est un organe qui est très important également dans la sexualité. Et il y a un article qui m'intéresse bien, je voudrais quand même qu'on en parle. Et vous écrivez « Couple, meilleur moment pour faire l'amour ». Est-ce que ça veut dire qu'il y a un meilleur moment pour faire l'amour, Gadiel?
Oui, vous savez, ailleurs, sur d'autres cieux, on fait beaucoup d'études, on fait des études sur tout, en tout cas sur le quotidien de l'homme, sur le manger, sur le quotidien et sur les rapports sexuels, Les rapports sexuels, on sait que ça peut se faire à tout moment, mais paraît-il que, à un moment donné, si on pratique les rapports sexuels, cela a plus de vertus sur la santé, cela donne plus en tout cas fait du bien au couple. Et c'est un article que nous invitons les couples à lire. Quand faire l'amour pour, ou bien quand aller au rapport sexuel pour avoir plus de vertus sur la santé, c'est à lire.
C'est à lire. Merci beaucoup, Gadiel, de nous avoir donné ces informations. L'essentiel, c'est de se procurer du journal
et de lire santé, beaucoup éducation. D'informations dans un journal.
Voilà, c'est à quel prix et quelles sont les conditions?
Non, MIFRAN a trouvé en pharmacie dans les kiosques et puis a téléchargé la version numérique sur le site www.santeeducation.tg à 500 francs.
À 500 francs. Merci beaucoup, Gadiel. Merci. Ça a dit d'être passé dans cette émission Club de la Presse. Ça fait toujours plaisir de vous avoir et dans cette chronique de santé avec votre journal Santé Éducation. Merci d'être passé dans cette émission. Alors, chers confrères, nous abordons le premier sujet alors de cette émission, bien sûr. Ah ben, c'est vous qui nous donnez alors le premier sujet. Hein. Vous parlez du transport routier. Vous écrivez « Transport routier, lever certains obstacles, 85 milliards de francs CFA pour les réalisations et prévisions au Togo ». Et également, vous écrivez en encadré et les infrastructures routières les plus développées, avec à la une certaines infrastructures routières, que la photo ou l'illustration de certaines infrastructures routières. Alors, Abbas, concrètement, à quoi répond cet article-là que vous avez écrit?
Non, l'article qu'on a fait, c'est pour montrer que la route... Bien, le développement économique passe par le développement de la route. Il faudrait beaucoup prendre soin de ces routes-là et entretenir ces routes. Sans ces routes, nous aurons beaucoup de problèmes au niveau de notre économie. Vous savez, nous avons des routes internationales et des routes transversales.
Voilà.
Transversales. Donc, quand vous prenez la route qui quitte Lomé jusqu'à la frontière Saint-Cassé, c'est une route qui a été faite, qui a été reconstruite, mais on constate que sur cette route-là, il y a beaucoup d'obstacles qu'il faut revoir. Lorsque vous prenez déjà, vous quittez, vous sortez de Lomé et vous allez, vous traversez, vous finissez Thiévié et le PIA de Davier, vous voyez les difficultés que les conducteurs ont pour rallier même jusqu'à Takpamé. Il y a des problèmes là-bas. Lorsque vous arrivez même au niveau de Atakpamé, vous continuez sur Anié jusqu'à Aouda, dans la région centrale, vous dépassez Soutoubou un peu. La route qui est là est beaucoup en souffrance. Les gens parlent même de la piste parce que c'est une route qui est rongée. C'est des routes qui ont été tracées depuis des années, dans les années 70, je crois, qui n'ont pas encore été réaménagées. Et quand nous avons fait ça, c'est pour dire que par rapport aux accidents que nous voyons ces derniers moments sur la route nationale, cet accident qui s'est déroulé à Bouladé, à 15 km de Bafilo, la route là-bas, quand vous avez, elle est totalement rongée et complètement réduite, si bien que les titans, les gros porteurs et les petits véhicules se disputent cette route-là. Ça fait qu'à moindre incatade, c'est qu'il y a un accident. Donc, quand vous quittez même Sokodé, de Sokodé jusqu'à Kara, la route a été rongée et on n'a pas encore réparé, alors que c'est une route internationale. Et quand vous sortez de Sokodé et de Kara, vous avez une bonne route jusqu'à aller au niveau de Saint-Cassé, qu'on a même fait de doublement. Donc, il faudrait, parce que par rapport à ça, c'est la route qui fait le développement du pays. On a vu que entre 2020 et 2023, le gouvernement a construit 843 km de routes et par rapport aux pistes rurales, on a eu 4500 pistes rurales qui ont été faites pour dans les régions administratives afin de rallier les communautés rurales et aux villages pour les distributions des routes. Donc, on a vu que la construction de la route de Lomé-Palimé est en cours et très bien faite. Et on a vu également la route Lomé-Aného qui est faite. Si on pouvait faire ce genre de route comme ça pour permettre le développement économique de notre pays, ça peut aller. Et les routes transversales, on voit la route qui a été faite au niveau de Lomé et Nochen, Tong également et Thiévié-Tabligo. Aujourd'hui, on parle du contournement au niveau de Sokodé, contournement au niveau de... Il y a aussi une route qui doit être faite au niveau de Sokodé à Tchamba et de Sokodé à Bassa. Donc, c'est des routes qui permettent le développement de nos pays. Et pour cette année, on nous apprend que pour 2025, il y a 13 milliards de francs CFA qui ont été mis en place pour le revêtement et la réhabilitation de ces routes-là pour cette année 2025. Et on pense qu'au moins pour cette année, il faudrait que ces routes-là, on crie trop, puisqu'on avait programmé entre-temps de faire une route Lomé Saint-Cassé, comment on l'a appelé, la route de l'Union. La route comme ça, l'autoroute de l'unité.
Voilà.
Donc si l'autoroute de l'unité là, peut être faite, et ça va dans l'intérêt de nous, la population, ça va dans l'intérêt de l'économie togolaise. Et là, on ne pourra pas nous dire que le port ne contribue pas beaucoup au budget de l'État. Donc je pense qu'il faudrait mettre tout en œuvre pour que nous ayons de bonnes routes. On a commencé par les construire depuis quelque temps, mais aujourd'hui, il faut les améliorer beaucoup. Ça, c'est pour l'intérêt de notre économie. Et je pense qu'il faudrait qu'on y mette beaucoup de moyens.
C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais on constate qu'il y a encore de grands défis à relever.
Bien évidemment, comme ça a été dit tout à l'heure, le développement de la route passe par...
La route du développement passe par le développement de la route.
C'est bien ça. J'en veux pour exemple, la dernière fois quand le président de la CENI proclamait les résultats, il disait que les résultats peut-être ont accusé un peu de retard parce que les procès-verbaux de la préfecture de Mou ont tardé à arriver à cause de la distance, que c'était un peu la localité la plus éloignée. C'est ce qu'ils attendaient. C'est pourquoi la proclamation des résultats a pris du temps. Oui, s'il y avait, par exemple, je dis n'importe quoi, une voie ferroviaire qui ralliait le nom directement à Lomé, c'est dans quelques minutes que c'est réglé. Si on a des trains à grande vitesse, une route assez dégagée, ça ne prendrait pas assez de temps. Maintenant, il se fait qu'on a une seule route internationale à proprement parler, mais avec des nids de poules un peu partout, ça ne rend pas la circulation parfois assez fluide et ça empêche vraiment d'aller au rythme normal, comme on le souhaite. Donc, c'est de bon ton que les infrastructures soient remises au goût du jour pour les arranger. Et ça permet en même temps de développer le pays économiquement. Vous savez qu'aucun investisseur ne viendra et s'il se rend compte que, bon, je ne peux pas avoir le délai normal pour envoyer mes produits à destination, ça impacte également l'économie du pays. Donc, développer la route, ce n'est pas une question de débat ou de poser des doléances. Ça devait aller de soi pour se faire. Donc, pour générer encore plus d'économies pour le pays, pour protéger également les citoyens. C'est vrai, la plupart des causes des accidents, c'est parfois l'excès de vitesse ou la conduite en état d'ébriété. Mais si l'état de la route est également bon, ça peut permettre de régler un temps soit peu, de réduire également certaines imprudences sur la route. Vous ne maîtrisez pas la route et vous trouvez un nid de poule, vous tombez là-dedans et puis ça cause des problèmes. Donc, développer les infrastructures, les promesses qui ont été faites, il est vraiment de bon ton que nous parlons à l'instant de l'autoroute de l'unité. Ça doit être vraiment, ça va porter le Togo au pinacle de rendez-vous internationaux et pour permettre, comme je viens de le dire, aux investisseurs également de s'installer pour mieux faire bouger l'économie du pays.
D'accord. Justin, c'est vrai que la promesse a été faite par rapport à cette autoroute, alors de l'unité, c'est-à-dire de Lomé, la nationale numéro 1, de Lomé à Saint-Cassé. Mais finalement, ça tarde toujours. Mais on a le droit de savoir, mais qu'est-ce qui ne marche pas?
Non, ce n'est que de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux, en ce sens que c'était au cours d'une campagne électorale que cette annonce a été faite. Ça fait combien de temps? Et qu'est-ce qui empêche? J'analyse, je dirais même que nous n'avons pas de route au Togo. Si je prends globalement la sous-région ouest africaine, à moins que je me trompe, le Togo est le seul pays où le chemin de fer ou la voie ferroviaire ne fonctionne pas. On a quand même le droit de se poser des questions. Ça fait 5 ans bientôt que le Togo a eu son indépendance. Est-ce que véritablement nous avons de route au Togo? Je n'en sais pas trop. Donc tout ce qui est annoncé, c'est à des fins électoralistes, politiques, propagandistes. Malheureusement, c'est le constat qui est là. Bon, qu'est-ce qu'on veut?
Dire qu'on n'a pas de route au Togo, est-ce que c'est pas trop dit?
C'est pas trop dit, mais vous faites le constat. Vous prenez la nationale numéro 1, dont vous faites allusion tout à l'heure. Ça fait combien d'années que l'annonce a été faite, qu'on va avoir de l'autoroute, on va avoir ceci, on va avoir cela. Malheureusement, ce à quoi on assiste aujourd'hui n'est que, excusez-moi l'expression, du saupoudrage, malheureusement. Le constat est là, il faut avoir la vérité de le dire. Et même si ça choque à un moment donné, pour que les gouvernants puissent quand même avoir véritablement la conscience, parce que ça n'est de trop. Ce que nous constatons sur nos routes, quand vous voyagez, moi je dis à un moment donné que je ne peux plus se permettre de voyager à aller vers le nord, parce que l'état de route, les groupes porteurs qui sont là, je crains énormément. J'ai un parent qui a effectué le déplacement la fois dernière de Lomé à Ouagadougou, durant tout le parcours, c'est la prière. Non seulement à un moment donné, les djihadistes attaquent de l'autre côté, mais du côté du Togo aussi, c'est la croix et la bannière. Donc on n'a pas de route. Et malheureusement, lorsque vous roulez également la nuit, c'est là où il y a le danger. Donc il n'y a pas de route, les groupes porteurs sont garés n'importe comment, il n'y a pas de contrôle là-dessus, donc c'est tout un problème. Donc il va falloir également que les gouvernants qui nous envoient dans une fameuse 5e République puissent quand même penser à ça. Si la 5e République peut arriver, que nous pouvons avoir l'autoroute de l'unité dont on fait allusion, mais bravo.
D'accord. Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Non, ça va.
D'accord. Nous sommes en train de parler alors de la route. Il y a le sujet qui a été, bien sûr, évoqué dans le journal Mania, le Mania Libéré, ce matin d'Abbas Issaka. Et nous en parlons. Oui, tout au début même d'ailleurs de cette semaine, nous avons commencé même par parler de la route avec le journal Liberté, qui parlait des pistes rurales et demandait plutôt également le désenclavement aujourd'hui. On a même un ministère dédié à cela, mais finalement, est-ce que vous avez l'impression que ça prend?
Non, écoutez, ça ne prend pas. Il faut dire les choses telles quelles, ça ne prend pas. Hein, c'est vrai que vous allez au nord du pays, dans certains contrées un peu reculées, oui, il y a eu quelques efforts de pistes pour désenclaver certains milieux. On était dans l'Est Mono, il y a quelques mois, j'ai vu que bon, il y a eu quelques efforts qui sont faits à ce côté-là, mais à part ça, il y a plus grande chose à se mettre sur la dent. Quand on parle donc de la route, il faut aller en Côte d'Ivoire pour voir ce qu'on appelle route. Vous comparez le Togo à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas photo. Vous, c'est vrai. Regardez un peu ce qui se passe donc du côté de la Côte d'Ivoire, où parfois vous pouvez même être sur une route. Vous prenez une photo, vous envoyez à quelqu'un, vous lui dites que vous êtes à Manchester, mais il va croire.
Ouais.
Il vous croira. Mais ça, tout ça, là, c'est quoi? C'est une volonté politique. Ici, j'ai l'impression que la volonté politique n'y est pas. N'y est pas. C'est vrai, on peut être le plus beau patriote du monde, mais regardez ce que le Talon a fait en quelques années de présidence. C'est pourquoi je parlais de la volonté politique. Aujourd'hui, au niveau donc du Bénin, vous avez des clichés nocturnes sur les voies, mais vous êtes émerveillés. Mais ici, posez-vous la question. Même la voie Lomé-Palimé, la dernière fois, empruntez cette voie-là et vous verrez. Même la nuit, vous prenez peut-être de Atikoumé à Zangera, par exemple, et la nuit, vous êtes sidéré. C'est-à-dire, vous roulez jusqu'à un moment donné, vous avez la lumière. Et de l'autre côté, à peine, vous n'en avez plus. Vous roulez jusqu'à, peut-être après 30 minutes, vous avez la lumière, après vous n'en avez pas du tout. C'est-à-dire qu'on a tellement donc de choses, et puis aussi avec des bosses et tout. Je crois qu'il faut véritablement le faire. Surtout la nationale numéro 1, parce que c'est une route tueuse. C'est une route qui tue presque chaque semaine. Mais je crois que déjà, depuis l'arrivée donc du président, des gens d'aller vers plus et tout, on a déjà ce projet-là. Mais entre-temps, on nous a même annoncé qu'on a trouvé donc des bailleurs de fonds et tout ça pour financer cette voie-là. Mais depuis zéro. Et à chaque fois, vous vous réveillez un bon matin, vous regardez, on dit bilan 8 morts, vous regardez, c'est national numéro 1. Et vous regardez, c'est national numéro 1. Si bien que je me pose 1000 questions. Est-ce que ça, c'est devenu une fatalité pour nous? La nationale numéro 1, est-ce que c'est devenu une fatalité pour le Togo? Si bien que on peut rien faire. On ne peut que, de manière virtuelle, le baptiser et autoroute de l'unité, et après basta. surtout dans les zones attaques parmi en allant. Vous arrivez à ce niveau-là, commencez déjà, si vous êtes catholique, commencez déjà à faire vos chapelets. Jusqu'au nord du pays. La voie est tellement exiguë, si bien que, mais regardez, c'est une voie qu'emprunte souvent donc les groupes auteurs, tout cela, puisque c'est l'unique qui désenclave, qui va vers le nord du pays. Hein? Emprunter cette voie-là, parfois, les Burkinabés aussi, avec les gros bus, là, eux, ils ne font que rouler au milieu de la voie. Mais quitte à vous de céder ou non. Vous voyez, donc, c'est parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de moyen pour dédoubler la voie-là. Et le faire de manière nickel pour qu'on n'ait plus des accidents. Chaque fois, à partir de ta permis, c'est des accidents. Donc, je crois que c'est. Même bien avant, le point culminant, c'est-à-dire à partir de là, mais commencez déjà à faire votre prière.
Non, là, c'est pas grave. On jusqu'à Agnès, là. Il n'y a pas de problème. Agnès jusqu'à Oudala, il n'y a pas de problème. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Vous sortez de péage de Davier pour aller
à Moutien ou autre. À ma papier, là.
Ils sont en train de colmater les brèches actuellement. Ouais. Hein, les travaux sont.
Est-ce qu'il faut colmater les brèches? S'il plaît, il faut qu'on aille un à un, s'il plaît.
Parce que colmataille, là, qu'on fait là, c'est des gens qui sont venus pour prendre des marchés. Parce qu'on dirait qu'eux autres, ils prient qu'il y ait des trous. Des nids de poules pour qu'ils viennent
commander. Des éléphants.
Hein? Puisque c'est les choses. Mais ce que nous disons aujourd'hui, on a des routes. Il y a une route sur laquelle les gens roulent. C'est qu'on n'a qu'à améliorer cette route-là. C'est tout ce que nous demandons. D'accord. On améliore cette route parce que j'ai donné les exemples. Entre Sokodé, Kara, c'est là, on peut dire, la route est devenue complètement, elle a un peu disparu. Et ça cause aussi des accidents. Entre Tchévier et Moutien, dans ma papier, ouais. Moutien, tout ça là, il n'y a pas encore chose. Mais il y a eu des efforts qui ont été faits entre Agnès et Brita. Lorsque vous prenez la route Agnès-Brita, c'est très bon. Vous dépassez Sotouba, mais lorsque vous arrivez à Ouda pour arriver à Sokodé, et de Sokodé jusqu'à Bafilo, Kara, c'est aussi un calvaire. Donc c'est là que nous avons dit qu'il faudrait qu'on prenne le temps de revoir cette route, même si pour le moment, on n'a pas de moyens pour faire l'unité,
l'autoroute de l'unité,
au moins qu'on prenne soin de refaire cette voie-là.
D'accord.
C'est pour ça que je remercie le fait qu'on a fait, on dit on fait contournement. Pour que les titans ne traversent pas même la ville de Sokodé. Les gros porteurs là qui traversent la ville de Sokodé avec une route très restreinte, il n'y a même pas d'espace et ils se disputent les voies. Mais aujourd'hui, là, ce que nous avons à faire, comme on l'a fait, on est en train de le faire sur la route Lomé-Palémé et qu'on l'a fait sur la route Lomé-Aného, qu'on puisse faire ça. C'est une route internationale qui nous apporte beaucoup sur le plan économique. Qu'on puisse la remettre à niveau pour que nous en bénéficions.
D'accord, Estelle?
Oui, je dirais, en tout état de cause, l'État aura gagné en refaisant toute la voie que colmater les brèches, comme on vient de le dire, en fait. Puisque c'est la seule route internationale qu'on a, en fait, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, de Djankassé à Saint-Cassé, comme on le dit trivialement, c'est la seule route internationale. Bon, si on se met à ranger de temps en temps, il faut dire que ça n'a jamais été homogène. Vous voyez, parfois c'est élevé, parfois il y a des cabosses un peu partout. Ça ne règle pas véritablement le problème. Il vaut mieux faire un budget en bonne et due forme, on analyse un peu, on rétablit toute cette route-là. Il y va de l'intérêt de l'État également, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux investisseurs et tout. Mais en attendant qu'on arrive là, étant donné que ce n'est pas encore fait, au moins que les contrôles soient stricts sur les routes, en fait. Je ne veux pas encore donner des exemples un peu tristes. On a vu la fois passée avec la passerelle d'Agoué, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas eu de contrôle sur cette route? La question reste toujours posée. On a vu l'accident de Bouladé la fois passée. Qu'est-ce qui s'est passé s'il n'y a pas de contrôle? Mais il suffit juste de sortir par rapport aux stations de Fortune parfois. Vous voyez des charges jusqu'à une hauteur pas possible. pendant que des passagers même sont surchargés déjà dans le véhicule, vous voyez une charge qui a une hauteur pas possible sur la voiture également. Et ça, ça passe sous les yeux des personnes en uniforme, on ne dit rien.
Il y a un mot de face.
Moi, je ne sais pas, mais c'est de visu pour remarquer ça même qu'il y a un problème.
C'est le commandant qui
le dit.
Il va partager ce
mot. Si l'état de la route est déjà déplorable et qu'il y aura encore des surcharges et que, entre griffes, ceux qui sont censés faire le contrôle seront encore complices, mais on laisse les populations ou dans tout ça.
D'accord.
Au moins le contrôle strict pour le moment, en attendant que les routes ne soient faites.
D'accord. Alors, si parce que nous allons quitter le sujet.
Le problème, c'est pour ajouter une petite
rapidement.
Chose. Le problème, c'est que lorsqu'on doit même à construire, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va construire une route qui doit faire 20 ans et en moins de 3 ans, elle commence par se dégrader. Quand elle parlait de suivi et de contrôle, c'est ça qu'il faut. Il y a des projets de construction de routes. Et là, immédiatement, il n'y a pas un suivi exact comme ça. Et j'ai évoqué ça dans l'article que nous avons parlé. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Le suivi des services techniques, des travaux routiers, il n'y en a pas. Ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde, lorsque quelqu'un vient prendre le marché, alors qu'il doit faire une route qui doit faire 20, 30 ans, mais cette route, en moins de 5 ans, commence pas à se dégrader.
La corruption passe par là.
Là, il souligne un autre problème.
Oui, justement, c'est un autre problème.
Les marchés de gré à gré.
Et ça fait
la corruption.
Un autre débat. Alors, nous allons nous intéresser à un autre sujet. Autre sujet, c'est cette situation qui prévaut à Sunubank. Sylvestre, vous êtes revenu sur le sujet. C'est vrai, le vendredi dernier, nous avons eu même d'ailleurs les secrétaires généraux du Sunubank ici au club de la presse qui nous ont expliqué un certain nombre de choses. Vous vous étonnez alors du silence de l'État. Vous écrivez crise à Sunubank, curieux silence de l'État.
Ça vous étonne? Non, écoutez, vous savez, quand on parle donc de menaces, de licenciement, je crois que tout État ou tout gouvernement doit être interpellé. Regardez un peu, c'est vrai que quand on le donne, on dit peut-être que c'est non. Regardez un peu en France, lorsque on vous dit qu'il y a menace de licenciement dans une société donnée. Regardez la manière dont le gouvernement s'implique. Parce que, entre-temps, le gouvernement fait des efforts pour réduire drastiquement le taux de chômage. Et si on vous dit qu'il y a une banque qui projette licencier, disons, pour l'instant, le nombre n'est pas trop fixe, entre 70 et 105 personnes, normalement, ça doit interpeller l'État. Parce que c'est entre 70 et 100 Togolais qui doivent encore retourner.
C'est 105 qu'ils ont amené ça.
C'est 105 qu'ils ont, oui. Selon les négociations, ça reviendrait à 70. Même 70, c'est beaucoup. C'est 70 Togolais qui vont retourner un bon matin au chômage.
C'est des familles derrière.
Or, le même État fait des efforts pour réduire considérablement le taux de chômage. Donc, ça veut dire que conviendrait que normalement, l'État doit s'impliquer véritablement dans cette crise-là. Mais j'ai l'impression que entre les syndicats, ça se joue, entre les syndicats, la direction générale, et l'État regarde ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, nous avons appris que les responsables donc du syndicat ont été reçus par les autorités et tout, je ne vais pas aller dans les détails. Mais comment se fait que l'État, quand on parle d'État, je vous dis, l'État peut écraser tout, hein. Quand on vous dit l'État, c'est l'État, quoi. On parle souvent que l'État a le monopole de la violence. Ça, je crois qu'on ne va pas rentrer dans ces détails-là, c'est entre. Mais quand c'est l'État, c'est l'État. L'État, pour un beau matin, vous dit, syndicat, venez, personnel, venez, direction, quel est le problème? Voilà ce que je décide. Du fait d'un certain nombre de paramètres, voilà, retournez et allez travailler. Mais le problème demeure depuis là. Ça fait plus de... quand on prend un peu l'actualité, ça fait un peu près d'un mois que entre syndicats et la direction, chacun pas média interposé, mais on se chamaille, tout le monde campe sur sa position. Or, et les syndicats, et la même Sunubank est dans un état, et pour l'instant, est sur le territoire togolais, il y a des autorités. Mais à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Mais lorsque tout cela se passe et puis on a l'impression que non, c'est entre eux. Maintenant, c'est le personnel et les syndicats qui menacent donc d'aller en grève. Et là, quand on parle de grève, c'est également un manque à gagner pour l'État. Voyez-vous donc que tout ce qu'on fera, il y aura des conséquences sur la gestion de l'État. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas censés regarder ailleurs de tout ce qui se passe là. Le ministère de la fonction publique est interpellé. Le ministère donc des Finances est interpellé. Voyez-vous, ces deux-là suffisent pour mettre fin à cette crise-là sur nos banques. Mais j'ai l'impression que... je ne vais pas prendre position, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est la direction qui dicte la loi et puis tout le monde se tait, même l'État. C'est pourquoi nous demandons ce matin, quel est ce curieux silence de l'État?
D'accord. Est-ce que vous comprenez le silence de l'État dans cette affaire?
Non, je ne comprends pas toute l'affaire pour comprendre. Je ne comprends pas toute l'affaire pour comprendre même la position de l'État dans l'affaire. Je dis les choses telles qu'elles sont. Juste l'affaire passée, il semblerait qu'ils ont organisé même une conférence de presse, je crois bien. Des médias ont été invités et tout ça là, mais je n'ai pas eu vraiment la substance de ce qui a été dit. Du coup, j'observe de loin. Je sais qu'il y a une crise.
Comme l'État.
Oui, j'observe de loin. Comme l'État. Je sais qu'il y a une crise au sein de l'institution. Qu'est-ce qui a conduit aujourd'hui à cette crise-là pour que des employés en pâtissent? Ça aussi, c'est l'interrogation qu'il faut poser.
On parle du besoin, enfin, de motifs économiques et on veut renvoyer le personnel, on veut renvoyer pratiquement plus de 70 personnes.
Les motifs économiques sont arrivés comment? Vous avez cherché à savoir?
Mais justement, on posait la question. Finalement, c'est que c'est plutôt au niveau alors de la direction qu'on dit la loi.
Justement. Donc, dans cette situation, qui prend position, qui fait quoi? Donc, c'est de bon temps également que du moment où la banque est implantée sur le territoire togolais, que l'État togolais peut-être interpelle pour savoir effectivement ce qui se passe et voir comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là. Je suis parfaitement d'accord qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de l'État-providence où l'État doit trouver du travail à tout le monde, comme on le prétend. Mais quand certains citoyens ont déjà du travail, il faut être dans la logique de conserver ce travail-là. Mais si par des raisons, ou d'autres, on veut arriver à déposséder des citoyens de leur travail acquis, je crois qu'il y a bon temps de négocier, de discuter, de situer les responsabilités pour sauver quand même la situation au lieu de la laisser s'embraser. Puisque ça fait déjà un moment que ça discute, ça dispute, ça discutaille dans tous les sens. Il faut à un niveau taper du poing sur la table pour trouver une solution définitive à cette crise-là.
D'accord. Oui, Abbas, est-ce que vraiment, tel que Sylvestre le dit, est-ce que l'État n'a pas obligation aujourd'hui de taper du poing sur la table et de dire alors, je pense que on en a assez écouté parler de cette histoire de Sounou Bank.
Sounou Bank, vous savez ce que Sounou Bank est. Sounou Bank, c'est parti d'où? Sounou Bank, c'est suite aux caisses d'épargne,
la caisse d'épargne.
Et c'est devenu
BPEC.
Et après, Sounou Bank est devenu reprendre. Et il a ouvert ses agences un peu partout. Et maintenant, il dit, menace de fermer les agences.
Et on a commencé par fermer même d'ailleurs les agences.
Ils ont commencé et ils évoquent le problème économique. Au niveau de ces banques-là, il n'y a aucune crise économique. La crise économique dont ils parlent est provoquée même par les premiers responsables de cette institution.
Comment ça?
Les dépenses somptuaires qu'ils évoquent, qu'ils sont en train de faire, quand vous allez là-bas. Et puis, ce n'est pas sur une banque qui est seule dans cette affaire. Hein. Il y a la BIA Togo qui est dans cette situation où on menace encore de renvoyer les choses.
Les agents.
Il y a Aura Bank également. Et dans tout ça là, selon les informations que nous avons reçues, c'est que les gens vont recruter ceux qui sont à la tête sympa des Togolais. Les gens vont recruter leurs frères à l'extérieur qu'ils amènent ici, par exemple, au Sénégal, au Bénin.
Avec de gros salaires.
Pendant que nous, nos compatriotes ici, ils ont des salaires de 200-300 000 francs. Et vous vous dites qu'il y a crise économique au niveau de cette banque. Quand ils ont fait leur conférence de presse, ils ont dit, bon, nous allons faire de telle sorte que, puisque l'État dit qu'il a pris le dossier en main, les autorités ont pris le dossier en main, si dans les 10 jours qui suivent cette conférence de presse, rien n'est fait, ils vont rentrer en grève. Et ce ne serait pas Sounou Bank seulement qui va rentrer en grève. Parce que si une banque arrive à renvoyer, à licencier les autres, c'est que les autres banques, là, ça devient jurisprudence. Les autres banques qui sont dirigées, qui sont gérées par les étrangers également, même si on a privatisé, il faudrait que la privation, il faudrait que un DG soit togolais et un adjoint puisse être un étranger pour qu'on puisse maîtriser la situation. Mais si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, c'est que c'est grave et que nos compatriotes sont dans des difficultés. Et si c'est une banque, c'est le syndicat des banques, ce n'est pas une banque, ce n'est pas un syndicat pour le sur une banque seule.
Non, c'est pour toutes,
c'est
les,
pour
banques.
Toutes les banques. Justement. Donc, c'est
que, et assurance.
Et assurance. Et assurance. Ce qui veut dire que si la Saint-Banque, le Saint-Banque engage une grève, ça engage toutes les banques du Togo. Et il faut faire attention. C'est pour cela aujourd'hui, quand Sylvain dit l'État doit intervenir, il faudrait que l'État puisse intervenir du moment où l'État a repris le dossier en main, que l'État puisse intervenir pour trouver une solution à cette situation, pour que nos compatriotes, on ne puisse pas les mettre dehors comme ça,
d'accord,
étant donné que nous sommes en train de lutter contre le chômage.
D'accord. C'est vrai que quand on parle du secteur bancaire, c'est un domaine un peu sensible, compte tenu quand même du flux d'argent quand même qui circule. Maintenant, au-delà même d'ailleurs de cela, et avant que la situation ne s'embrasse, il faudrait quand même que l'État dise aussi un mot.
Bon, l'État doit dire un mot à condition que l'État en amont a analysé et s'est rendu compte qu'on ne peut pas privatiser ce qui est régalien, ce qui lui incombe. La souveraineté également de l'État, c'est l'économie. Malheureusement, le constat qui est fait aujourd'hui, l'économie togolaise se retrouve dans les mains, excusez-moi l'expression, des étrangers. Sous nos banques, le monsieur dont on parle, c'est vrai, je ne suis pas tellement associé à cette conférence de presse, je n'y étais pas. J'analyse la situation de l'un, tout comme ma consoeur. Mais je finis par comprendre que, à force de privatiser tout ce qui est pouvoir pour l'État, l'État va se retrouver dans une situation très difficile. C'est celle-là dans laquelle nous sommes aujourd'hui, malheureusement. Parce que sous nous, et avec tout ce qu'on a connu, avec ceux-là qui sont les premiers responsables également, les dirigeants de cette institution bancaire, ce ne sont pas des autochtones. Ils ont acheté, c'est une banque privatisée. L'État a quel pouvoir dans cette institution bancaire? La question est là. Même vous prenez les assurances aujourd'hui. Mais on a pris le temps, le loisir, le plaisir de privatiser tout dans une république. Les banques sont dans les mains des étrangers. Les autochtones n'ont pas assez de pouvoir. Vous voulez que l'État vienne faire quoi dans cette histoire-là? Je pense que l'État, entre guillemets, s'est fait baiser. Maintenant, il y a une menace de grève qui est là. Comment est-ce que ça va se résolver? Je n'en sais pas trop. Mais toujours est-il que les autochtones ont le pouvoir de décision. Mais s'ils maintiennent leur position, je pense que c'est une question de rapport de force qui est en train d'être créé. Et à la suite, on verra ce que ça va donner. Mais tout compte fait, j'avoue et je fais également observer que l'État a trop poussé le bouchon que nous sommes aujourd'hui à une situation très difficile et à analyser. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un État qui se dit un État souverain peut se laisser jusqu'à tel degré, entre guillemets, d'incompréhension pour laisser l'économie togolaise dans les mains des étrangers? Je n'en vois pas. En dehors de ces banques dont on parle aujourd'hui, est-ce que véritablement ceux-là qui sont dans les secteurs informels, dans les grands marchés, dans les marchés un peu partout, qui ne sont pas des Togolais, est-ce que finalement ils arrivent à investir dans le pays? Je n'en pense pas.
D'accord.
Donc tout ce qui s'observe aujourd'hui, les fonds, les capitaux sont tellement sorti du pays et c'est difficile maintenant de revenir là-dessus. Donc, la situation est là, est très très difficile à régler.
Effectivement, on va revenir sur le sujet, il n'y a pas de souci. Oui, mais Sylvestre.
Oui, nous avons quand même appris qu'il y a la commission bancaire va arriver incessamment sur cette affaire-là. Et je crois que avec l'arrivée de cette commission, l'État pourra véritablement s'impliquer pour qu'on puisse connaître un dénouement. Mais, vous savez, généralement, dans ce genre de crise aussi, il faudrait que nous, journalistes, il faudrait quand même qu'on se parle également. Vous savez, avant d'être journaliste, nous sommes des Togolais. Et donc, c'est nos compatriotes. Des citoyens togolais. Et donc, c'est nos compatriotes qui sont aujourd'hui
en difficulté.
En difficulté, sous la menace de licenciement. Alors, lorsqu'il y a ce genre de situation, et que certains se permettent de luxe de céder au cri de sirène d'une agence de communication de crise, je crois que il faudrait que nos confrères aussi, certains de nos confrères, fassent extrêmement attention à cela. Pour l'instant, c'est la confraternité, on ne donnera pas de nom. Mais quand certains se permettent le luxe d'aller céder aux sirènes des espèces sonnantes et trébuchantes parce qu'il y a eu communication de crise et FEO écrit contre les Togolais. À un moment donné, nous allons donner leur nom et nous citerons ces organes-là.
D'accord, ok, on va s'intéresser à notre sujet.
Pour un petit mot par rapport à ça.
Un petit mot, 10
secondes. C'est que la paralysie, cette grève devait paralyser ces banques-là déjà en cette fin de mois de février. Mais c'est l'intervention de l'État, c'est ce qu'on nous apprend, qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une petite accalmie. Qui fait
si on parle de 10 jours, c'est ça?
Oui, mais c'est en cette fin de mois que ça. Que les choses vont rentrer en ordre. L'État est en train de se battre pour trouver une solution.
Bon, on croise vraiment les doigts. Oui, on croise les doigts. Puisqu'il y avait déjà une crise annoncée au niveau d'Aura Banco aussi en fin d'année passée. Mais finalement, c'est l'intervention de l'État qui a permis de calmer en fait. Il est de bon ton. Je crois qu'avec l'intervention de l'État, ça aussi, on arrivera à une solution.
Après avoir privatisé, on intervient maintenant pour calmer.
D'accord. Oui, je sais. On va s'intéresser maintenant à la fin.
C'est juste après.
Justement, c'est intéressant. La politique, c'est vrai, vous suivez de près aussi cette situation qui prévaut au sein alors du regroupement DMP, c'est-à-dire la dynamique pour la majorité du peuple, et par rapport surtout à son membre, parti membre bien sûr, l'UNI, l'UNI qui a été suspendu durant même d'ailleurs de la DMP bien sûr, mais déjà on apprend également, l'UNI a fait sortir un communiqué pour faire savoir que mais jusqu'à présent rien ne lui a été notifié, donc pour cette question alors de suspension, pour le moment il n'a rien donné quand même comme épanouie, mais il n'en dit pas grand chose. Alors comment vous analysez alors ce sujet?
Mais qu'est-ce qu'il va dire monsieur Sassou Gabriel de Céanon? Qu'est-ce qu'il va dire? Et le monsieur vient de montrer encore une fois qu'il n'a pas changé, parce que je me rappelle encore de son tour de passe-passe, son vase-force à l'époque en 2005, lorsque le parti, l'UFC, l'Union des Forces de Changement, a pris position vis-à-vis de ce qui s'est passé à la suite de carnage que les Togolais ont connu à la session de Fonds Nassibé au pouvoir. Et Feudem Kodjo étant nommé Premier ministre, donc il était question maintenant de déboucher les gens. Donc lui et Feu Amania Sigbe ont quitté les rangs de l'UFC à l'époque. Et automatiquement, il a été viré. C'est après qu'il a créé sa formation, le NIE, avec un certain Thomas et autres. Mais moi, à un moment donné, je me disais qu'après qu'il a été nommé, il a quitté ce poste. Et il s'est reconverti en disant qu'il est opposant, d'accord. Donc, il se battait pour rentrer dans les regroupements politiques. Et si ce n'est le dernier, la dynamique... Monseigneur Poudreau, et qui est devenu par après la dynamique Monseigneur, comme on l'appelle,
pour la majorité
du peuple. Maintenant, il y a une ligne de conduite dans tout regroupement ou dans toute association, il y a une ligne de conduite, il y a une directive. Si vous êtes membre, vous êtes censé maintenant de respecter les directives, la ligne de conduite. Mais si vous n'arrivez pas à respecter ça, mais je pense que les premiers responsables vont vraiment se retrouver et voir. Et quelle sanction vous convient, c'est ce qui est arrivé. Lui, il a eu la chance qu'il n'a pas été, je sais pas, renvoyé du regroupement, mais il a été suspendu. Maintenant, si entre-temps, on l'a invité à en savoir plus par rapport à sa démarche, puisque le regroupement a pris position vis-à-vis de la 5e République et vis-à-vis également des élections sénatoriales. Mais vous êtes membre, je pense que le bon sens voudrait quand même que vous respectez les lignes. Vous ne respectez pas, on vous suspend. Quels sont les arguments qu'il avance aujourd'hui, qu'il a appris par voie de presse et autres? Bon, la voie de presse est bien informée. Ce sont là les canaux également par lesquels vous pouvez être informé. Moi, je dis, à mon sens, qu'il n'a pas d'argument à faire valoir. Parce que depuis un bon moment, moi, j'analyse, j'observe le monsieur. La plupart des regroupements, enfin, la plupart des organes racontent que la dynamique pour la majorité du peuple organisée avec les médias, vous y étiez également. Et je ne voyais plus monsieur Gabriel Sassou de Céandron. C'est M. Zidol qui le remplace. Le pauvre, malheureusement, qui a été tabassé également le 29 avril par les Nervis.
C'est qui les Nervis, là?
Ah, mais les miliciens. Voilà, qui sont venus comme de la boue au siège de la CDPA, au même titre que le député Sanya et Mme Kafui, et député Kafui Brigitte Adjamago, et les autres, y compris même nos confrères. Donc, moi, j'analysais le monsieur venir, mais là, ce qu'il a posé. Récemment, moi, ça ne m'étonne pas. Moi, j'attends plutôt que le chef de l'État le nomme sénateur très prochainement. Et puis bon, on saura qui est qui dans la danse. C'est malheureux que des gens se réclament de l'opposition, mais pour des actes aujourd'hui qui découragent plus, qui démobilisent plus la mobilisation vis-à-vis du combat qui est mené.
D'accord. Oui, mais c'est vrai, on est membre d'un regroupement politique. Et le regroupement a une ligne, bien sûr, et a donné même des consignes, mais finalement, vous outrepassez même d'ailleurs ces consignes, et là, on vous suspend, et vous sortez également pour justifier.
Oui, et ça devient un peu récurrent aussi dans les regroupements d'opposition. Je ne veux pas encore citer des exemples qui sont très récents aussi dans nos mémoires. Et il en a même fait cas dans sa sortie et tout. Mais la question fondamentale à laquelle ça me ramène, c'est de savoir aujourd'hui la notion de conviction au niveau des regroupements de partis politiques. Et l'autre question, c'est la quête de l'opportunisme. En intégrant ces partis-là. Est-ce qu'on y va par conviction, parce qu'on a la même lecture de la chose politique, ou on l'intègre en guettant, en fait, ou en épiant certaines opportunités qu'on peut avoir? Mais quand on fait la politique, il y a également des convictions. D'aucuns diront qu'il n'y a pas de morale en politique, mais à un niveau, il faut avoir quand même, comme vous l'avez dit, il y a une ligne de conduite qui régit, en fait, les regroupements de partis politiques. Et tant que vous y êtes membre, vous êtes astreint à cette ligne de conduite-là. Maintenant, si vous ne respectez plus ces règles-là, il est de bon ton d'ailleurs, quand vous sentez une dichotomie ou des propos ou des positions un peu disparates, il est de bon ton que vous retiriez en justifiant en fait votre retrait. Mais si vous tenez à y rester, donc vous vous conformez naturellement aux règles qui régissent en fait le fonctionnement de ce regroupement. Donc la dernière fois, on a appris que le NIE est suspendu de la DMP. Hier, le NIE a fait une sortie en s'étonnant que je n'ai eu aucune notification directement de mon parti. C'est par voie de presse que je l'ai appris et je tombe des nues parce que je m'attendais à ce que puisse apparemment il y aurait eu une convocation de réunion. Il a fait un amendement sur l'ordre du jour, mais il n'a pas répondu pour le moment. Lui, il espérait qu'il devait avoir un retour sur les amendements qu'il a apportés. Donc, il était dans l'attente de ces amendements-là lorsqu'il a appris l'information. Maintenant, au-delà de ça, il va fustiger certaines attitudes comme quoi le parti prône un peu l'hégémonie de certains sur d'autres et qu'ils pratiquent un peu l'exemple des autres partis. Donc ça pose de véritables problèmes de cohésion même et d'unicité d'action au sein des regroupements politiques de l'opposition. À tel enseigne, on se demande s'ils se mettent ensemble pour la même lutte ou si d'autres sont là pour faire du ping-pong ou comment est-ce que ça se pose finalement. Est-ce qu'une question de conviction ou d'opportunité? C'est un peu ça ma question.
Est-ce que cette situation ne fragilise pas l'opposition? Parce que, c'est pas le regroupement et la dynamique alors pour la majorité du peuple qui connaît cette situation pour la première fois. On a connu également avec des partis politiques, surtout avec cette question de 5e République et des sénatoriales, j'allais dire. On a connu. Est-ce que ça ne fragilise pas l'opposition?
Non, fragiliser en quel sens? Moi, je crois que le président du NIE en soi, c'est une déception. C'est une déception totale parce que lorsque vous lisez un peu ce qu'il a fait balancer sur les réseaux sociaux, bon, moi, il me l'a envoyé, je l'ai vu, je l'ai ignoré. Et donc, lorsque vous voyez un peu le test, c'est également un test plein de condescendance. Il parle comme s'il parle assez domestique. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque... Je le dis très souvent, vous savez, la paupérisation de la population déteint un peu sur la politique, si bien qu'à un moment donné, lorsque les choses deviennent difficiles, donc on n'a plus de repères, on perd ses convictions. Et puis bon, voilà, et on tient des propos pour se justifier, mais finalement, on se laisse découvrir. Il y a une dynamique de groupe. Il y a une position qui a été adoptée par le groupe. Position que vous avez soutenue pendant longtemps et à un moment donné, à quelques jours donc des sénatoriales, patata, le gars lâche. Parce que je ne sais pas si entre-temps les choses devenaient un peu beaucoup plus compliquées. Et donc, il lâche, et puis après, il vient, il prend un test que lui-même, je me dis, il se permet dans son test. Et en parlant donc de la dynamique, il fait en sorte donc de généraliser un peu les choses parce qu'il dit l'ADNP se comporte comme les FDR et l'ANC qui sont des radicaux et tout. Vous voyez, lorsque vous n'avez plus, vous n'arrivez pas à vous maîtriser vous-même, vous êtes dans la divergation. Vous allez dans tous les sens. C'est ce que nous voyons avec ce monsieur-là. Or, à un moment donné, lorsque vous arrivez à un certain âge, il faut savoir ce que vous cherchez dans la vie. Et lorsque vous voyez un peu M. Gabriel de Saint-Agnon, vous voyez un tel personnage qui a été même ministre dans ce pays, à un moment donné, il devait au moins savoir ce qu'il cherche dans la vie. Mais se comporter encore comme si c'est un jeune novice en politique et tout. Bon vent, lui, ici, entre-temps, il arrive à être sur la liste des 20 chanceux du chef de l'État, il est sauvé.
Tout à fait.
Mais à défaut, il rentre dans les. C'est pas dans je ne vais pas dire dans les poubelles de l'histoire, je ne veux pas de le dire.
D'accord, ok.
Mais
vous l'avez dit.
Mais il va dans les oubliettes.
Abbas, est-ce que vous êtes arrivé quand même à comprendre l'attitude alors du responsable du NID?
Hein? On le dit souvent, chacun sèche son habit là où le soleil brille. Vous suivez le parcours
du côté de Uni.
Vous suivez le parcours de ces Gabriel Agnon. Vous savez comment les choses se passent. Donc le monsieur, je pense que il voit que peut-être que ce qui là-bas ne va pas au niveau de la DMP ne va pas le sauver. Moi, ce qui.
Non, mais le sauver en quel sens? Parce que elle parlait de conviction.
Oui, c'est ce que je voulais venir là-bas. Ça n'est pas rapport aux convictions. C'est que quand vous allez. C'est ça, j'ai parlé, chacun sait son habit là où le soleil brille. Quand il a vu, peut-être que quand il a pris la DMK, il était à la DMK où il a défendu, il est allé aux élections, il était dans la campagne de Agbemou Kodjo. Croyant que les choses vont changer, Agbemou Kodjo va le nommer ministre. DMP aujourd'hui, il va dans la même direction. Et aujourd'hui, il voit que nous sommes en train de faire les sénatoriales. Et il prend dedans parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer, un prochain gouvernement qui va être nommé. Il y a aussi les 20 sénateurs qui furent nommés. Donc, il faut se démarquer. C'est pour cela que dans sa lettre, il a dit que la DMP agit comme le FDR
et
l'ANC.
Il fait les yeux doux. Hein?
Est-ce que c'est normal? Vous voulez avoir appartenir à une dynamique qui a aussi sa ligne. Si ça ne vous sied pas, vous dites nous démissionnons de cette ligne et vous prenez vos tangentes et vous continuez votre route ensemble. C'est vous continuez votre route seul. Laissez les autres travailler. Donc la lettre, le communiqué qu'il a lu, qu'il a fait circuler là moi, c'est que ça fragilise beaucoup plus. Ça décourage même les populations, ça fragilise aussi.
Même dans ce parti, le NID, ça ne va pas. Dans ce parti, le NID, ça ne va pas. Nous avons des informations.
D'accord,
malheureusement, que l'occasion ne nous permet pas de.
Justement, nous reviendrons là-dessus. Il n'y a pas de souci, nous reviendrons là-dessus. Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat.
Les masques tombent aujourd'hui.
On va donner maintenant la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission. On va donner la parole à nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer, bien sûr, en ligne pour leur intervention. C'est sur le 90 86 35 35 91 36. Sur 315, également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5
Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 315. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô.
Bonjour Madame Essie.
Oui, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, bon.
Allez-y.
On est là, ça. On voulait rentrer encore en ligne aujourd'hui. Parce qu'il y en a marre, quoi. Et puis voilà. Donc, vous avez parlé de tout, vous suffoquez autant que nous. Hein. Tout le monde suffoque avec ce régime qui passe outre tout, qui fait du fastage en force, sans tout. C'est-à-dire, je roule avant de m'arrêter. Parce qu'il est nécessaire qu'on entre en ligne. selon vous, là, quelles sont les institutions qui sont pas obsolètes dans ce Togo depuis qu'ils ont dépassé les 5 ans, là? Ils l'ont dépassé depuis 68, puisqu'ils sont arrivés en 63, donc 5 ans, on a dit. Et puis, il y a eu 2005, qui ne devrait pas arriver dans une république, mais les gens ont cautionné ça. Et puis, à la fin, vous nous dites que les lois ne sont pas rétroactives. Vous avez débattu dessus, vous les journalistes aussi. Vous avez débattu dessus durant tout un mandat.
Allô, madame aussi.
Oui.
Mais restons dans le débat d'aujourd'hui, s'il vous plaît.
Le débat d'aujourd'hui, c'est que toutes les peines, là, vous avez discuté de toutes les routes. Il n'y aura rien dans une république.
Non, nous avons débattu des sujets bien précis.
Pardon?
Nous avons débattu des sujets bien précis.
Bien précis, les routes, non?
Oui, les routes, bien voilà.
Ah oui, les routes et tout le reste. C'est-à-dire, le pays est détruit parce que les gens ont refusé d'alterner dans une république où ça stagne, tout stagne, tout est détruit. Et puis voilà. Ça détruit les familles, les partis politiques et les organisations civiles. Tout est détruit dans le pays. Donc, il n'y a pas à cautionner. Je vais parler du NI. Le NI, là. La DMK ne sait pas qu'elle est composée de gens proches du régime avant de s'associer avec ces gens-là. La CDPA, je veux dire. La CDPA, dont je fais partie. Elle ne sait pas que son regroupement là est composé des gens proches du régime avant de s'associer à eux pour vilipender un seul opposant parmi les 120. Elle ne le sait pas. Et puis voilà, d'accord. On en est là. L'ONU nous avait dit dans ce pays qu'il est proche du régime. Il ne nous a jamais dit qu'il en est sorti. Merci.
Merci beaucoup, Madame Essi, pour votre intervention. Également sur la question alors du NI, il y a Maglibé qui nous suit alors depuis la Belgique qui écrit « Dossé Agneron, c'est comparable à un fervent musulman qui va inaugurer une ferme porcine. C'est du non-sens et à la limite, alors de la folie. » Merci. Et c'est ce qu'il nous dit. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Oui, c'est Monsieur Eric Telesou.
Ah, Monsieur Eric Telesou, vous nous appelez de Telesou. Allez-y.
Oui, je salue tout le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue.
Je suis très content pour le problème de chemin de fer, là. Donc, je vais faire un effort. Dans la sous-région, c'est le Togo seul. Mais si on prend la route et le chemin de fer Lomé-Palimé, il n'y a pas de choses. On pouvait arranger Lomé Blita, pour le moment. Pourquoi? Je supporte celui qui a soulevé le problème là. Pour le journaliste qui a parlé de comparaison Togo et la Côte d'Ivoire là, je vous en prie. Une région de la Côte d'Ivoire dépasse le Togo. Si vous prenez, par exemple, Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, en allant de Djoukoué, et jusqu'à Mala, vous pensez que le Togo est quoi? Ça dépasse deux fois le Togo. Ne comparez pas. Comparez le Togo à Centrafrique ou bien à côté ici, comment vous appelez là, le Bénin. Mais vous comparez le Togo à la France. Vous comparez le Togo. Non, mais mes chers, nous tous, on a voyagé. Hein? Je vous en prie.
Allô, Eric. Allô, Eric.
Oui.
Ben, est-ce que vous avez écouté la comparaison que notre confrère a fait?
Non, il a fait la comparaison du Togo, que normalement le Togo devait être comme la France. Non,
Eric, ce n'était pas ça. Je ne sais pas si vous nous avez suivi, ce n'était pas ça. Mais merci.
Bien suivi.
Eric.
Par exemple, Lomé, Saint-Cancela. Je suis d'accord.
Oui, Eric.
Oui.
Notre confrère parlait de la manière dont les routes sont bitumées en Côte d'Ivoire et demandait plutôt que ça se fasse aussi sur le Togo.
Non, le Togo ne peut pas aller dans ce sens-là. Je dis, la richesse de la Côte d'Ivoire n'est pas la richesse
justement, du Togo. D'accord. Merci beaucoup, Eric. Merci et bonne journée. Merci pour votre intervention. Bonjour, c'est Georges qui nous écrit depuis Ségbé. Pour les routes, n'allez pas trop loin jusqu'à l'intérieur du pays. La route de Ségbé, malgré son étroitesse, n'est que très partiellement éclairée et les accidents sont légion tous les jours que le bon Dieu crée. Nous les supplions de nous allumer les lampadaires qui sont implantés depuis des années et pour lesquels nous payons l'éclairage public chaque mois. C'est Georges depuis Ségbé. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, Dizi. Ah, c'est Bozambo.
Oui.
Oui, allez-y, Bozambo.
Le Toko va mal. L'éclairage public que vous avez parlé maintenant, si tu prends le contournement jusqu'à arriver à Mwepe, il y a des lampadaires, mais ça n'allume pas. Tu arrives à la douane de Mwepe, rompe le grand rompe là, tous les murs, il y avait de l'accident et les morts et les blessés. Donc, ils ont fait de route de quitter à Talimé, arriver à Mwepe. Ils ont fait une carrefour. Donc, si quelqu'un vient de Lomé et toi, tu viens de Palimé, donc si le projecteur est allumé sur votre pare-brise, donc tu n'arrives même pas à voir devant. Donc, les gens cognent au bord du protocole là, qui ont appartement qu'on appelle au bord de la au milieu de la route. Là. Donc, il y a trop de l'accident. Donc, je me demande s'ils ont donné quelque chose aux entrepreneurs. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Ce que Ebomaf a fait, il n'a pas fait les gouttières, ni rien. Donc, ils ont laissé comme ça. Tout le monde... Non.
D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bozambo, okay, pour votre intervention. Oui, justement. Bonjour, le plateau est spécial. Coucou spécial à Abbas. Presque toutes les banques du Togo sont privatisées. Alors, les nouveaux gérants de ces sociétés font ce qui leur passe par la tête. Alors, ne soyons pas surpris de ce genre de décision. Pour le cas du NI, il n'est pas le seul, monsieur Agneron. Tout le monde s'agite alors pour un poste au Sénat. Alors laissons les vautours chasser. C'est Harry qui nous écrit depuis Adido Gomé. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô, bonjour.
Bonsoir, bonjour.
Bonjour Basile, comment vous allez?
Ah, je vous laisse voir.
D'accord, allez-y.
J'espère que vous allez me servir aujourd'hui. Ouais.
Allez-y Basile.
Hey, pour les routes, vous avez tout dit. Et quand nous on parle, c'est ça qu'on ne se fait pas comprendre. Pourquoi ce petit Togo, avec tant de richesses, on n'a pas de route. Vous avez parlé des gros porteurs. Moi, je ne veux pas parler de gros porteurs. Les longs bus de transport, c'est d'eux que moi je parle. Les quittants, même, hormis leurs problèmes de conteneurs qui n'attachent pas bien, je ne parle pas des quittants. Sur la route Lomé, Sikassé, Burkina, Niger, Mali, ce que les lombus, on sait que c'est ceux qui nous gouvernent, c'est pour eux, ce que les lombus font sur la route, ils sont que c'est moi seul qui vois ça. Quand ils quittent son aliment, ils viennent se faire face. On dit qu'il faut se jeter dans la bourse. C'est quel code de route eux ils utilisent. C'est ce que moi je demande. La route n'est pas, bon, c'est exiguë même d'abord. Et maintenant, ce n'est même pas bien. Il y a les trous, il y a les bosses aussi. Et maintenant, lui, si tu ton aliment, il te fait pas. Tu te jettes dans le ravin. Dis à toi, si tu n'es pas blessé. On ne peut pas nous donner la possibilité de prendre le numéro au moins de ce bus. Oui, mais aidez-nous. Peut-être que vous allez dire que vous ne me servirez pas que les autres radios encore de même. C'est pas bien.
Merci beaucoup, Basile. D'accord, merci beaucoup, Basile. Vous avez été largement compris. Salutations cordiales à vous, mon frère Pascal. Salutations cordiales aussi à tous les Togolais. En analysant le paysage politique togolais, l'argent est en train alors de détruire notre pays et la dignité est bannie. Exemple, Jécris Olympio, Robert Olympio, Gabriel Dossé Agneron, etc. C'est Dr Kofi Segbignon qui nous écrit. 90 86 35 35 91 36 75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Mauto, allez-y.
Salut le plateau. Vous avez parlé des routes. Pourquoi on n'a pas fait les routes au Togo? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais les gens qui veulent de l'argent pour faire la 5e République. Imaginez-vous, toute la rémunération que ces sénateurs vont reçu pendant 6 ans ou bien 5 ans. Par exemple, c'est bien quelque chose pour, faire les, pour arranger les routes au Togo ici. Ça ne va pas au Togo, quoi. Aller dans les marchés, rien ne va. Rien ne va du tout. Alors que et les gens trouvent l'argent pour faire ce qu'ils veulent. Pour faire quoi? Le Sénat n'existait pas dans la condition de 92. La condition originale de 92 ne comportait pas le Sénat. C'est la réforme de 2002 de M. Najaba qu'ils ont fait intégrer le Sénat dans la constitution. Pourquoi les gens ne sont pas dans ce pays? Merci et bonne émission.
Merci à vous, Monsieur Mangouto, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Bonjour Canal FM, s'il vous plaît, pour le problème de la suspension du parti Le Nid au sein de la DMP. Moi, en tant que jeune, j'ai assisté à l'investissement des, enfin, je pense qu'il veut écrire plutôt l'investiture hein, des candidats de la DMP lors des élections législatives. C'est là j'avais remarqué qu'il n'y a pas d'entente au sein de la coalition. Il y avait eu une mésentente entre les jeunes du Nid et en alignant les candidats, le plus fort voulait toujours que les têtes de liste soient de son parti. Nous, on veut l'alternance et non l'hypocrisie politique. C'est Prénam qui nous écrit 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô?
Bonjour, Canal FM.
Oui, comment vous allez?
Allô?
Je vous écoute. Il semble que vous n'avez pas de retour.
Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, Canal FM.
Comment vous allez?
Ça va.
Votre nom, c'est?
Monsieur Yves.
Monsieur Yves, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Akato.
Akato, allez-y.
Oui, vous avez touché un point qui est les voix. Mais je voulais juste vous dire que le Togo est à refaire. Tout est à refaire dans ce pays. Au moins, ils n'ont qu'à nous donner à manger. Le maïs est trop cher. Tout est cher à Lomé. Au moins, on n'a qu'à manger. Et même si on a eu des accidents, c'est qu'on est rassasié avant d'avoir un accident. Je m'arrête là.
Yves, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Je pense que Yves, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Je lis rapidement cette réaction. Salut, Canal FM. Merci réellement nos gouvernants. Ce souci de la population depuis que les médias et la population sont en train de crier alerte sur les routes concernant la mauvaise ou le mauvais état et les accidents. Il allait prendre des initiatives alors pour tout. Et c'est bien sûr André qui nous écrit depuis Dakar. Chers confrères, nous revenons en plateau puisque c'est le dernier auditeur qui est Yves et avec sa réaction, nous avons tous ensemble suivi la réaction des uns des autres. Nous allons faire un tour de table terminer l'émission de ce mercredi. Estelle, vous avez écouté les uns les autres réactions?
Non, vous connaissez bien ma philosophie.
Tout à fait.
Chacun
ou bien si vous avez un autre sujet
sur
lequel vous voulez vous prononcer, il n'y a pas de souci.
Non, ça va. Chacun participe au débat. Donc, de la pluralité des débats naît des idées constructives aussi pour la gestion de la chose publique. Donc, merci aux intervenants. De manière générale, on ne souhaite que le mieux vivre des populations et que les différentes suggestions soient prises en compte pour le bien-être de chacun.
D'accord. Abbas?
Oui, je pense qu'il n'y a rien à ajouter par rapport au sujet que nous avons abordé. Il faut éviter que nos banques, là, nos compatriotes soient licenciés de ces banques. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas seulement de Sounou Bank. Il y a d'autres banques qui attendent que sous nos banques agissent et puis ils suivent leur pas. Déjà, même il y a ça sur la liste. Ils sont déjà sur la liste, on l'a vu. Donc, qu'on fasse de telle sorte qu'on n'en arrive pas au licenciement de nos compatriotes. Que l'État qui a pris le dossier en main et qui est en train de travailler là-dessus puisse le faire. Et à la satisfaction de tout un chacun de nous. Je voulais aussi féliciter et encourager nos compatriotes qui sont allés au FESPACO pour le FESPACO avec le ministre de la Culture, qui sont en train de faire la projection de leur film là au FESPACO, que au moins on puisse avoir des gens et que le cinéma togolais puisse renaître de ses cendres. Sinon, je veux dire, là, le cinéma togolais n'est pas, les gens se débrouillent pour faire ça et le gouvernement doit les aider à beaucoup plus se découvrir. Et ce FESPACO là, je pense qu'avec ce qu'ils sont en train de faire, les six compatriotes, les six cinéastes qui sont allés, togolais qui sont allés, qu'on puisse aussi les accompagner beaucoup plus.
D'accord. Justin ?
Non, d'abord, merci pour tous ceux-là qui ont appelé. Seulement, je remarque les...
Et ils étaient nombreux à réagir également sur notre numéro WhatsApp.
Oui, oui. Ça veut dire que nous sommes suivis. Donc, je dirais que pour ce qui concerne le cas de ce parti, le NI, les masques commencent pas à tomber. Il n'est pas le seul, ils sont encore nombreux. Je pense que Dieu aidant, progressivement, on va les connaître. Et en dehors de ça, j'aimerais également inviter les confrères journalistes à être compatriotes. Lorsque nos frères togolais sont en difficulté vis-à-vis de l'étranger, il faut surtout soutenir celui qui est autochtone. Donc, j'envoie un message à leur endroit. Et j'ai peut-être un coup de cœur à l'endroit d'un compatriote, d'une compatriote. Et j'aimerais faire allusion à la dame en feu, Bertin Agba, qui a été arrêtée le 25 juillet dernier. Elle et ses enfants et son cousin ou son beau-frère, jugé ou non, je ne sais pas trop, mais elle est aujourd'hui dans le lien de la détention. Elle souffre gravement, elle est très sérieusement malade. Tension artérielle, diabète par ici. Malade, les pathologies qu'elle traînait depuis de l'autre côté, en région parisienne, avant d'arriver au Togo, et où elle a été arrêtée. Et dans une affaire où, lorsque vous analysez sur la barre des motifs, sur la barre duquel elle est toujours gardée, elle est torturée, c'est difficile. Vous approchez la famille, c'est très difficile pour la dame. Donc, je vois ce coup de cœur à l'endroit des autorités, notamment le chef de l'État, de voir son cas et de lui accorder la grâce d'aller se faire soigner. Donc, bravo aux épaviers d'âme qui vont encore jouer ce soir. Bravo à elles. J'ai suivi le match la fois dernière, en commençant par l'entraîneur principal, Madame Kai. Le fond de jeu de cette équipe des dames des épaviers est à saluer. Donc, ce soir, elles vont encore livrer. Donc, le match retour sur la même installation, c'est-à-dire au stade de Kégué, l'entrée est d'ailleurs gratuite à 16h. Donc, j'invite également les Togolais et les Togolaises à aller les supporter. D'accord. Parce que, en croyant sur ces jeunes dames, je pense que le Togo va encore aller loin en matière de football.
D'accord.
Merci.
Sylvestre ?
Oui, je crois que les dames nous sauvent. Hein, on commence déjà à avoir quelques noms qui sortent du lot, ma fille, Odette et tout. Donc, du côté des garçons.
Ouais, et quand vous dites que les dames nous sauvent, est-ce que les hommes ne nous ont pas sauvés?
Ils savent ce qu'on leur réserve. Ils ont intérêt même à se qualifier pour la prochaine CAN. Sinon, bon, voilà, donc les dames font.
Ma fille, il y a également une certaine Sonia ZTP, qui joue très bien là.
Je crois que ça vient. Bon, on avait connu Amis du Monde, c'était les débuts et tout ça. Maintenant, le football féminin est une réalité au Togo. On commence à avoir des stars. Elles sont une bonne dizaine déjà, ou douzaine déjà dans les championnats européens et tout. Donc, je crois que ça prend. Donc, bon vent au Togo. Peut-être que je vais terminer par notre nouvel ambassadeur, le colonel Urokura Gadazi. Ainsi, à lui donner une autre, je lui donnerai trois parce que.
3/10.
Oui, 3/10, parce que pour une petite crise.
Mais elle n'a même pas encore pris fonction.
Oui, pour une petite crise, il commence déjà à paniquer. il va dans tous les sens. Je me dis, non. Hein, lorsque vous êtes devenu ambassadeur, il faut être un peu diplomate. J'ai lu sa réponse ou sa réaction face donc à ce que Koji Togo a dit, et puis il commence à même à insulter, à dire des inepties et tout ça. Lorsqu'on devient diplomate, on est diplomate, quoi. Vous savez, au temps de 2017-2020 et tout, Kalis Madjouba, tout ce qu'il a vécu en France avec nos compatriotes qui étaient feu de tout bois, qui à chaque fois allaient au niveau de l'ambassade, le monsieur a géré tout cela dans le calme, sans bruit.
Lui, pour une petite crise, il commence déjà à paniquer, il va dans tous les sens, il insulte, il s'attaque à RFI et tout ça.
C'est parce qu'on demande aux autorités françaises de ne pas lui accorder l'accréditation.
Je crois que avant de partir, il doit acheter donc un cahier de 300 pages, un bic bleu, un bic rouge. Il va chez le colonel Madjouba, on lui dit, ça, faire ça. Un ambassadeur doit faire ceci, un ambassadeur ne doit pas faire ça. Il prend note avant de partir. Sinon, j'ai une simple crise comme ça, il panique là, c'est pas bien.
Vous lui donnez 3 sur 10.
3.
Il n'a pas encore pris
fonction.
Merci Sylvestre Béni, vous êtes du journal La Machette, directeur de publication, bien sûr. SL Koudzonou, directrice de publication du journal Gazelle Info. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Moyen Libéré. Merci d'être passé dans cette émission. Justin Anani, merci d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes journaliste freelance et vous collaborez avec beaucoup de journaux. Vous intervenez surtout sur Radio RTDS. Merci d'être passé alors dans cette émission. Merci à tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions à cette émission, à ce débat. Merci à vous. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Darcoutier a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, jeudi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.